Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, c'est pas une surprise, il est à mes côtés dans ce studio pour nous faire du bien à tous, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, nos programmes du jour. Notre grand dossier sera consacré aux troubles bipolaires, une maladie qu'on connaît de mieux en mieux et surtout dont la prise en charge s'est nettement améliorée ces dernières années. Avec notre invité, le psychiatre Charles Lydie, nous verrons comment repérer ces troubles bipolaires, quels en sont les causes et surtout, évidemment, comment les traiter. Ensuite, dans notre chronique Les mots du quotidien, nous ferons un zoom cet après-midi sur la maladie de Basedo. Savez-vous comment se manifeste cette pathologie qui touche la thyroïde? Comment la dépister et surtout comment la prendre en charge? Le docteur Jimmy Mohamed nous dira tout. Et puis vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera de l'intimité qui peut parfois mettre un peu de temps à s'installer dans les jeunes couples.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions, les vôtres, hein, au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on va démarrer par cette question de Béatrice qui vit à Caen. Écoutons-la.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Voilà, j'aurais une petite question. Donc, je dois bientôt subir une hystérosalpingographie car j'ai des difficultés à tomber enceinte. J'ai lu sur internet que cet examen était très douloureux. Est-ce que c'est vrai et est-ce que c'est un examen qui dure longtemps parce que ça m'angoisse un peu du coup. Voilà. Donc je vous remercie de votre réponse. Bonne fin de journée.
C'est sûr que si ça fait mal, c'est mieux quand ça dure pas longtemps. Alors Jimmy, on va parler pratique. Hein. Certains examens, surtout comme celui-ci avec un nom pareil, hein, salpingographie. C'est ça, j'ai bien dit. Non,
oui,
c'est
vos cours d'orthophoniste ont enfin fonctionné. Bravo, Mélanie.
C'est pas sympa. Alors, une hystérosalpingographie, c'est quoi précisément, Jimmy?
Alors, l'hystérosalpingographie, ouais, c'est tout simplement
vous
l'examen.
Êtes nickel, hein, parfait, toujours.
J'ai répété toute la nuit pour être crédible. Alors, c'est l'examen radiologique de la cavité utérine, de l'utérus et de ses annexes qu'on appelle les trompes, qui vont relier l'ovaire à l'utérus. Ça se fait par un radiologue. On se met en position gynécologique. Vous avez le médecin qui va introduire un spéculum. Il va introduire une petite sonde qui va aller dans la cavité utérine. Il va déployer un petit liquide qu'on appelle un produit de contraste qui va permettre, après la prise de radiographie, de voir un petit peu comment le liquide circule dans la cavité pour savoir éventuellement si ça bloque quelque part.
Alors ça permet très concrètement de dépister quoi par exemple? Dans quelle indication? Là elle nous a dit c'est parce qu'elle n'arrive pas à avoir un enfant, donc c'est ça j'imagine.
Mais c'est souvent, l'indication principale c'est dans les troubles de la fertilité, mais on peut aussi l'avoir lorsqu'on a des douleurs qu'on n'arrive pas à expliquer, si on recherche un polype, un fibrome, une malformation. Donc dès qu'on a un examen gynécologique qui est anormal mais qu'on n'explique pas forcément les choses, eh bien à ce moment-là on peut avoir recours. C'est pas l'examen de référence néanmoins, d'abord on fait des échographies, voire une IRM.
D'accord. Alors elle demandait est-ce que c'est douloureux et combien de temps ça dure? Ben, la réponse est...
Alors, ça dure une trentaine de minutes. C'est pas si long, c'est le temps de s'installer, de mettre le produit, donc c'est pas non plus... C'est pas une intervention comme une anesthésie générale. Il n'y a pas d'anesthésie générale. Alors, c'est pas douloureux, c'est pas très agréable non plus.
Je vais me permettre de donner un avis personnel, parce que j'en ai subi une. Honnêtement, c'est assez douloureux. Faut dire ce qui est, c'est pas du tout agréable.
Alors, ils disent que dans 5% des cas, ça peut être douloureux et les douleurs arrivent souvent au moment de l'introduction de la sonde et au moment où on déploie le produit
de contraste.
Le
liquide, c'est là que ça fait mal.
Et c'est souvent comparé, vous allez me confirmer ou pas, à des douleurs de règles.
Ouais, donc, un plus fort, hein, quand
un
même.
Un peu plus fort, donc voilà. Bon, vous avez pas eu de chance, mais voilà. Mais néanmoins, si c'était
la bonne nouvelle,
proposé,
c'est que parfois, on a un bébé à la clé derrière, si ça débouche les trompes, justement. Bon, très bien. On a les résultats tout de suite, hein, Jimmy.
Oui, exactement, parce que le radiologue, il fait des radiographies en temps réel et tout de suite, il vous dit où est-ce que ça peut bloquer ou si tout est normal.
Très bien, merci beaucoup Jimmy, c'est très clair. À présent, on va prendre une autre question d'auditeur pour vous, c'est Claire, 35 ans, une toute jeune maman, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. J'ai un bébé qui a beaucoup de rougeurs sur le corps, et quasiment des plaques en fait, et sur conseil du pédiatre, je lui applique de la crème quotidiennement. Je voulais savoir, est-ce que ça pouvait pas être de l'eczéma? Est-ce que ça peut arriver si jeune sur un bébé? Je sais que son père en avait quand il était petit, alors est-ce que ça peut être héréditaire? Je vous remercie, passez une bonne journée, au revoir.
Jimmy, alors l'eczéma à 6 mois, c'est possible?
Oui, évidemment. Alors, il faut savoir que l'eczéma, c'est la maladie dermatologique la plus fréquente de l'enfant. Oui. C'est 20% des enfants et ça commence souvent aux alentours de 3 à 6 mois, c'est possible. Oui. Et ça touche dans 85% les enfants qui vont avoir moins de 5 ans. Donc, c'est une maladie qui débute dans l'enfance et un bébé de 6 mois peut tout à fait éventuellement avoir de l'eczéma.
Et ça veut dire que cet enfant dont on entend parler là dans cette question, il peut en avoir toute sa vie ou ça peut régresser?
L'eczéma persistant de l'enfant est rare. En revanche, chez l'adulte, l'adolescent, parfois, justement, cet eczéma va en quelque sorte se réveiller et va être un peu plus dur à contrôler. Ça veut donc dire qu'on peut proposer des traitements.
Et est-ce qu'il y a une part génétique, puisqu'elle dit que son papa avait la même chose enfant à ce bébé?
Il y a une part héréditaire forte. 50 à 70% des enfants qui font de l'eczéma ont un parent qui en fait, et souvent, ça s'accompagne d'un terrain qu'on dit d'atopie, avec des allergies, qu'elles soient respiratoires, alimentaires, ou même parfois de l'asthme.
Très bien. Et alors, comment on le traite là? Le médecin leur a conseillé, j'imagine, et il a raison, de beaucoup crémer. Ça fait partie du traitement. Hein.
Deux bases de traitement. Le premier, c'est la phase d'hydratation en permanence, ne pas attendre qu'il y ait des lésions sèches.
C'est une peau plus fragile. Hein.
Exactement.
Ouais.
C'est une peau qui est beaucoup plus fragile. Et puis, lorsqu'il y a des phases inflammatoires, avec une peau qui va être rouge, irritée, ne pas hésiter à mettre des dermocorticoïdes qui vont être absorbés par la peau et détruites par l'inflammation entraînée par l'eczéma. Ça veut dire que la poudre, la crème, ne va pas aller dans le sang.
Si un eczéma, c'est pas dangereux pour
ce n'est
le bébé,
pas dangereux pour le bébé. Et encore une fois, attention notamment aux produits cosmétiques. On préfère des huiles lavantes que plutôt du savon qui va être plus agressif. Et surtout en cette période de l'année, quand il fait froid, les enfants ont un peu plus d'eczéma et donc il ne faut pas laisser traîner les lésions.
Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Claire qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, place à notre invité pour le dossier du jour, c'est le docteur Charles Lydy, psychiatre, qui vient nous parler dans le détail des troubles bipolaires. Une maladie psychiatrique complexe, mais que l'on va vous expliquer avec clarté, bien évidemment, comme à notre habitude. On vous détaille tout ça dans quelques toutes petites minutes, alors restez bien avec nous sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir en studio avec nous notre invité du jour, c'est vous, docteur Charles Lydy. Je dis bien, c'est Lydy, c'est ça?
Tout à fait, c'est
bonjour.
Exactement ça. Bonjour.
Très bien, vous êtes psychiatre au sein des hôpitaux universitaires Henri Mondor et membre de la Fondation Fondamentale. Avec vous, on parle cet après-midi des troubles bipolaires, mais avant ça, on va peut-être expliquer quand même ce que c'est que cette Fondation Fondamentale. On a déjà reçu quelques invités, des psychiatres le plus souvent, qui en faisaient partie. C'est quoi cette fondation?
Alors la Fondation Fondamentale, c'est une fondation de coopération scientifique qui a été fondée en 2008 par le ministère de la Recherche. Et elle vise à lutter contre... la déstigmatisation, enfin plutôt à favoriser la déstigmatisation des maladies mentales, favoriser la recherche. Et elle propose aussi des centres experts qui permettent de proposer des consultations spécialisées, notamment dans la schizophrénie, le trouble bipolaire, l'autisme ou encore la dépression résistante.
Alors on va revenir justement à notre sujet du jour. Les troubles bipolaires, c'est quoi? C'est une maladie du cerveau, on peut dire ça déjà? Qu'est-ce qui dysfonctionne chez les patients qui sont concernés?
Alors, on ne sait pas exactement ce qui dysfonctionne dans le cerveau des personnes qui souffrent de troubles bipolaires, mais l'idée, c'est qu'il y aurait probablement une modification de la connectivité entre le cortex préfrontal et le cerveau qui est responsable des émotions, qu'on appelle aussi le système limbique.
Et on a souvent, c'est peut-être un abus de langage, mais on dit souvent « il est bipolaire » ou « elle est bipolaire ».
Pour les gens un peu lunatiques.
Voilà, il faut faire attention justement, parce qu'il y a une vraie définition de la bipolarité.
Tout à fait, il y a une vraie définition de la bipolarité. Tout le monde n'est pas bipolaire, comme on peut dire parfois que tout le monde est schizophrène. Le trouble bipolaire, c'est vraiment une maladie bien caractérisée qui est présente uniquement chez certaines personnes.
Alors, est-ce que si on regarde à l'imagerie, je ne sais pas, à l'IRM par exemple, je cite l'IRM mais ça pourrait être autre chose, est-ce qu'on peut voir des différences dans le cerveau de personnes qui sont atteintes de troubles bipolaires et comparées à des personnes qui n'ont pas ce genre de trouble ou pas?
Alors, on voit des différences, mais en fait, notamment à l'IRM cérébral, vous avez tout à fait raison, mais...
Ah, j'ai bien choisi, ouf, j'ai dit au pif, mais...
Bravo.
Très bien.
Mais c'est plutôt des différences qui sont à l'échelle des groupes, c'est-à-dire que quand on compare un groupe de patients bipolaires avec un groupe de personnes qui n'ont pas de pathologie psychiatrique, on va voir des différences. Pour autant, c'est des différences qui ne sont pas suffisamment précises pour nous permettre de faire le diagnostic pour un patient donné.
Alors, on va peut-être revenir à la définition. C'est quoi un patient bipolaire? Comment est-ce qu'on peut s'en rendre compte que nous, par exemple, on puisse être bipolaire ou que quelqu'un de notre famille l'est peut-être?
Alors, le trouble bipolaire, c'est une alternance entre des phases de dépression et des phases de manie ou d'hypomanie. Concrètement, les phases de dépression, c'est des moments où les personnes vont être ralenties, avoir parfois des idées noires, une tristesse de l'humeur. Et les phases de manie, c'est au contraire des phases où on est un peu plus excité, où le sommeil est souvent altéré, où on peut avoir des idées qui sont inhabituelles. Mais ce qui est très important, c'est qu'il faut que ces phases durent vraiment un certain temps pour pouvoir parler de troubles bipolaires.
On dit d'ailleurs les troubles bipolaires, ça veut dire qu'il y a plusieurs types, plusieurs formes de la maladie?
Tout à fait, c'est une maladie qui est assez hétérogène. Il y a des troubles bipolaires, ce qu'on appelle de type 1, qui est le trouble bipolaire avec des épisodes maniaques et des épisodes dépressifs. Mais il y a des formes de troubles bipolaires où l'épisode maniaque est un peu moins fort. On dit dans ces cas-là que c'est un épisode hypomaniaque. Et dans ce cas-là, en fait, on parle de troubles bipolaires de type 2.
D'accord.
Est-ce qu'on rencontre des troubles bipolaires un peu plus fréquemment chez des artistes, par exemple? Est-ce que c'est des gens qui ont plus de créativité, de création, vu que s'ils ont des périodes d'exaltation de l'humeur en travaillant la nuit, en étant un peu excité, est-ce que ça donne des profils un peu particuliers? Alors, c'est un fantasme, parce que c'est beaucoup fantasme.
Est-ce qu'ils sont tous agents secrets?
C'est vrai. Il y a des artistes, évidemment, qui souffrent de troubles bipolaires, mais je pense que vraiment, c'est plutôt l'idée que c'est une maladie qui est présente dans la population générale. Certains artistes sont touchés, mais je ne pense pas plus que d'autres catégories professionnelles.
Justement, c'est quoi la fréquence de cette maladie dans la population française, en tout cas, si on l'a mesurée?
Alors, en France, on estime que c'est entre 1 et 2% de la population qui souffre de troubles bipolaires, ce qui est une maladie quand même assez fréquente. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que ce n'est pas une maladie qui n'existe que dans les pays européens ou développés. C'est vraiment quelque chose qui existe dans tous les pays, dans toutes les cultures.
Et ça touche autant les hommes que les femmes, cette pathologie?
Ça touche à peu près, oui, autant les hommes que les femmes.
Est-ce qu'on connaît la cause de l'apparition de cette maladie? Est-ce que, notamment, c'est quelque chose d'héréditaire? C'est-à-dire, si ma grand-mère ou ma tante a eu des troubles bipolaires, est-ce qu'il y a plus de risques pour que j'ai ce problème-là?
Alors oui, effectivement, il y a plus de risques si vous avez un membre de votre famille, notamment un apparenté au premier degré qui a un trouble le bipolaire.
Premier degré, c'est vraiment la mère ou le...
C'est ça, ouais. Tout à fait. Mais pour autant, ce n'est pas une maladie génétique, attention. C'est-à-dire que le fait d'avoir des membres de votre famille qui sont atteints, ça augmente votre risque, mais ça ne veut pas du tout dire que nécessairement vous serez malade vous-même.
Et est-ce que ce risque ou cette prédisposition peut être modulée par des facteurs dans l'environnement? Est-ce qu'il peut y avoir des événements qui pourraient déclencher justement cette crise avec une prédisposition qu'on pourrait avoir?
Alors oui, tout à fait. Il y a des facteurs qui sont aggravants, présents dans l'environnement. Ça peut être le cas, par exemple, de la maltraitance. Ça peut être aussi le cas de la consommation de certaines substances, comme le cannabis.
Et quand on est atteint, enfin en tout cas, quand démarre cette maladie, quand il y a la première crise, on détaillera après comment ça se manifeste, mais ça nous tombe dessus en général assez jeune, hein, je crois. C'est pas une maladie de la personne âgée, quoi.
Non, c'est clairement pas une maladie de la personne âgée. Ça touche en général l'adulte jeune.
Et c'est des choses qu'on peut retrouver chez les enfants ou c'est exceptionnel?
Alors, il y a les troubles de bipolaire qui sont à début plus précoces, mais c'est quand même quelque chose qui est assez rare et qui est en général fait par diagnostiqué par vraiment quelqu'un de spécialisé dans ce domaine-là.
Et donc un enfant qui serait un peu survolté, parfois excité, comme tous les enfants le sont, c'est pas un enfant qui est bipolaire, parce qu'on peut aussi se craindre justement de se dire « bah mince, mon enfant est peut-être bipolaire ».
Pas du tout, pas du tout.
Alors, c'est une maladie psychiatrique, on vient d'en comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants, mais il se trouve que l'espérance de vie, parce qu'on se dit, bon, maladie mentale, ok, l'espérance de vie de ces patients est diminuée, comment ça se fait? Parce qu'on parle quand même, je crois, de 10 ans d'espérance de vie en moins, mais comment c'est possible pour une maladie mentale?
Bah alors, c'est une très bonne question. Effectivement, en fait, le problème, c'est que les gens qui souffrent de troubles bipolaires ont souvent moins le temps de s'occuper de leur santé physique. Ils ont plus de comorbidités. Ils ont plus fréquemment des problèmes de syndrome métabolique, de surcharge pondérale, voire d'obésité.
D'alcoolisme ou des choses comme
voilà.
Ça aussi.
Et puis aussi, ils vont aller moins souvent vers le médecin qui pourrait diagnostiquer des pathologies comme par exemple des cancers. Et donc, en fait, au total...
Mais 10 ans, c'est énorme d'espérance de vie en moins quand même.
Effectivement, c'est énorme. Mais ça veut dire aussi que les personnes qui souffrent de troubles bipolaires, c'est vraiment essentiel qu'elles puissent avoir un accès à leur médecin généraliste et consulter régulièrement.
Docteur Lahidi, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien sûr avec nous. Europe 1. Dans son rendez-vous, nous allons continuer ce décryptage sur les troubles bipolaires et dans un instant, on va passer au diagnostic. Quels sont les signes qui doivent faire penser aux troubles bipolaires? Quand consulter? Et d'ailleurs, quel spécialiste faut-il voir au moindre doute? On vous dira tout. À tout de suite sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invité en studio avec nous, c'est vous. Vous êtes le docteur Charles Lahidi. Vous êtes psychiatre au sein des hôpitaux universitaires Henri Mondor et membre de la Fondation Fondamentale. Docteur Lahidi, on va passer au diagnostic de ces troubles bipolaires. Mais juste avant, je reviens sur les causes. Je crois qu'il y a d'autres pistes qui sont étudiées en ce moment parce que finalement, on ne sait pas tout, on l'a compris. Hein. Notamment, on s'est rendu compte que les patients qui souffraient de troubles bipolaires avaient des taux dans leur sang, hein, de certains marqueurs inflammatoires ou immunitaires plus élevés. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Exactement. Et ben, c'est vraiment des développements assez récents de la recherche, finalement, qui montrent en fait que les patients qui ont un trouble bipolaire vont avoir un peu plus d'inflammation dans le sang, qui est quelque chose qui n'est pas forcément extrêmement spécifique, mais qui pourrait en fait expliquer comment est-ce que le trouble bipolaire se déclenche.
Parce qu'ils ont eu une maladie avant, donc ça pourrait être une origine presque infectieuse, c'est ça l'hypothèse ou...
On ne sait pas encore vraiment exactement. Ce qu'on sait, c'est que dans certains cas, le fait d'avoir des maladies infectieuses, notamment dans l'adolescence, c'est-à-dire vraiment une période à risque dans le développement du cerveau, pourrait augmenter le risque de développer un trouble bipolaire par la suite.
Alors, vous avez dit un petit peu quels sont les symptômes qui peuvent faire penser à un trouble bipolaire. Donc, ça a l'air assez simple comme ça quand vous le décrivez. Ça veut dire que le diagnostic est facilement fait ou est-ce qu'il y a malgré tout un retard justement à la prise en charge et au diagnostic de ces patients?
Non, je ne dirais pas que le diagnostic est si facile à faire justement, et c'est pour ça, comme vous le dites, qu'il y a un retard qui est très important. On parle presque d'une dizaine d'années en moyenne de retard dans le diagnostic du trouble bipolaire, et c'est un vrai problème de santé publique.
Normalement, c'est-à-dire 10 ans pendant lesquels ils ont la maladie, qu'elle s'est exprimée, mais ils ne sont pas traités, quoi, c'est ça?
Exactement, ils ne sont pas traités, on ne sait pas qu'ils ont cette maladie. Souvent, on le confond parfois avec des dépressions récurrentes, et c'est un vrai enjeu de pouvoir diagnostiquer le trouble bipolaire plus tôt.
Et qu'est-ce qui se passe pour ces patients qui vont errer dans la nature comme ça, sans traitement? Que ça va avoir un impact sur leur vie?
Eh ben, en général, oui, ça va avoir malheureusement un impact très important sur leur vie. Ils vont avoir du mal à s'insérer dans la vie professionnelle. Ils vont aussi avoir parfois du mal dans les relations amicales ou amoureuses. Et finalement, ce retard diagnostique leur est très préjudiciable.
Oui, et vous parliez notamment qu'on les mettait parfois à tort dans la case dépressif. Donc ça veut dire que j'imagine peut-être qu'ils sont traités pour une dépression. Et ça, c'est une perte de chance parce que ce n'est pas le même traitement. On verra après le traitement, mais on est d'accord, c'est une perte de chance.
Tout à fait, c'est une perte de chance. Et c'est pour ça que vraiment, c'est important de le diagnostiquer le plus tôt possible.
Alors, vous dites, ça alterne des phases de dépression globalement avec une période où on va être un peu maniaque. Qu'est-ce que c'est qu'un patient maniaque? Parce que là, encore une fois, on a quelques clichés qu'on peut voir dans certains films. Est-ce que c'est si caricatural que ça? Avec quelqu'un d'un peu exalté.
Donnez-nous des exemples éventuellement de patients qui sont en crise maniaque, ils font quoi?
Ça peut être vraiment, dans certains cas, très impressionnant, effectivement, un épisode maniaque. Mais bon, il y a vraiment tout type d'épisodes maniaques assez différents. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, il y a une altération du sommeil. Ça, c'est vraiment une constante. Et les patients, souvent, vont avoir envie, par exemple, de parler à tout le monde, avoir beaucoup d'idées, en fait, qui se bousculent dans leur tête. Souvent parfois un peu dans la séduction avec leur entourage de façon inappropriée. Ça, c'est des signes qui doivent faire évoquer un épisode
maniaque. Ils dépensent de l'argent aussi, peut-être parfois n'importe comment.
Ils peuvent malheureusement dépenser de l'argent de façon inconsidérée.
C'est
faire
un peu
aussi
euphorique,
des
c'est ça? C'est euphorique dans la joie, là, pour
exactement.
Le coup. C'est quelque chose de...
Ouais. Ils peuvent faire des prêts, s'endetter dans des très courtes périodes pour acheter des choses dont ils n'ont absolument pas besoin. Et ça, évidemment, après, par la suite, ça pose des grands problèmes quand la maladie est stabilisée.
Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait plusieurs types de troubles bipolaires, notamment parfois des troubles hypomaniaques. Alors là, ça veut dire quoi? C'est une mini-crise maniaque, ça veut dire quoi?
C'est
ça,
c'est exactement ça. En fait, c'est des symptômes maniaques atténués. Alors, dans tous les cas, en
du
général...
Du coup, c'est moins visible, hein, ça, ouais.
C'est moins visible et c'est aussi plus difficile à diagnostiquer. Et je pense que le retard diagnostique, il est d'autant plus important dans ce trouble bipolaire de type 2.
Alors, vous avez dit qu'il y a un retard diagnostique lié au fait que souvent, ils vont être mis dans la case dépression. Mais est-ce que cette dépression liée au trouble bipolaire est la même qu'une dépression, on va dire, classique, ou est-ce qu'on peut essayer de la caractériser et se dire, là, on est plus dans un trouble bipolaire ou pas?
C'est assez difficile de faire la différence entre une dépression unipolaire, donc dans le cas de la dépression, ou bipolaire. Ce qui est sûr et ce qui aide vraiment à faire le diagnostic, c'est la présence en fait, d'épisodes maniaques ou hypomaniaques qui sont associés.
Et donc, la question cruciale que peuvent se poser certaines familles, hein, comment on fait si, dans les choses que vous avez décrites, vous dites parfois 10 ans, ils restent comme ça sans traitement, les patients, mais admettons un parent qui a son jeune ado ou son jeune adulte, enfant adulte, on va dire, qui a ce genre de crise, il ne veut pas consulter aussi, parce que ça peut être ça aussi, on lui dit, mais non, je ne suis pas dingo, je n'ai pas envie d'aller voir un psy. Comment on peut le forcer? C'est quoi les outils à la disposition des parents, par exemple?
Alors, dans la majorité des cas, ce qui est important, c'est de lui expliquer l'importance de la consultation. Il peut d'abord consulter dans un premier temps même son médecin généraliste pour avoir un avis, parce que c'est parfois plus facile d'arriver par les soins par ce biais-là. Après, si jamais il y a des moments de crise qui sont extrêmement importantes, qu'on est inquiet que les personnes puissent
pour sa vie, ouais,
voilà,
c'est ça.
Se mettre en danger, il ne faut pas hésiter à appeler les pompiers qui peuvent ensuite amener la personne aux urgences, où il pourrait y avoir une consultation de psychiatrie en urgence.
Et est-ce qu'on doit faire des examens complémentaires avant d'être diagnostiqué bipolaire, ou en une consulte, pour vous, c'est réglé?
Ça dépend vraiment des cas. Il n'y a pas d'examen complémentaire qui permette de faire le diagnostic de troubles bipolaires. Mais je dirais que ce qui est le plus important, c'est de prendre le temps de reconstituer l'histoire des patients, notamment pour essayer de déceler ces épisodes maniaques ou hypomaniaques.
Et puis parfois de se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas une cause organique qui pourrait déclencher un trouble bipolaire? Alors, c'est peut-être pas si fréquent, mais faire une IRM cérébrale, être sûr qu'il n'y a pas une petite tumeur qui pourrait donner des troubles de l'humeur ou des choses comme ça, ou des prises de sang pour être sûr que dans un premier temps, tout va bien sur le plan organique et que ça se passe plutôt dans la tête?
Effectivement, ça permet d'éliminer d'autres diagnostics, comme vous le dites. Ce qui est aussi important, c'est que parfois, il y a certains médicaments, comme par exemple les corticoïdes, qui peuvent générer un début de trouble bipolaire qui est dans ces cas induit par une substance.
Et ces patients qui vont arriver par exemple par la case pompier, vous disiez, il y a une crise, j'en sais rien, maniaque, où ils vont vraiment faire n'importe quoi, où on a peur que même leur vie soit en danger. Ils arrivent à l'hôpital, on va dire aux urgences psychiatriques. Donc là, vous allez les garder, les hospitaliser pendant quelques temps, j'imagine. C'est pas genre, bon, allez, tiens, on te donne un médicament, tu rentres chez toi. Hein.
Non, quand il y a vraiment un épisode maniaque sévère, ça nécessite en général une hospitalisation qui va durer quelques semaines pour pouvoir d'abord faire le diagnostic et aussi mettre en place le traitement adapté.
Docteur Lady, on va continuer bien sûr cet entretien dans quelques minutes. On revient très vite.
Europe 1.
On revient très vite, et oui, avec cette émission consacrée aux troubles bipolaires. Dans un instant, après le diagnostic, on va passer évidemment au traitement. La prise en charge de la maladie bipolaire s'est nettement améliorée ces dernières années. Ces patients, quand on arrive à les équilibrer, peuvent mener une vie normale, et c'est une très bonne nouvelle. On va tout vous expliquer. Restez bien avec nous sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1, dans son rendez-vous, et nous accompagne cet après-midi. C'est vous, docteur Charles Lady. Je rappelle que vous êtes psychiatre au sein des hôpitaux universitaires Henri Mondor, et également membre de la Fondation Fondamentale. Docteur, quand on a un patient, donc on va passer maintenant, on a vu comment on diagnostiquait, on va passer à la prise en charge, au traitement. Quand on a un patient qui apprend justement en consultation, qu'il souffre d'un trouble bipolaire, il n'est peut-être pas tout seul, il est d'ailleurs peut-être accompagné de ses parents, je ne sais pas. On imagine que pour lui et pour ses proches, c'est comme, je ne sais pas, ça doit être un tsunami, ce que vous rappelez de la dernière annonce que vous avez fait de cette pathologie à un patient ou à ses proches.
Oui, effectivement, c'est un moment qui parfois est assez difficile. On sous-estime d'ailleurs, je pense, l'effet de cette annonce diagnostique. C'est vrai que dans des pathologies comme le cancer, on a vraiment réfléchi à comment est-ce qu'on peut annoncer ce type de diagnostic.
C'est assez protocolisé
d'ailleurs.
Exactement.
Hein, ouais. Et je dirais que c'est moins protocolisé dans le trouble bipolaire, peut-être à tort d'ailleurs. Vraiment, ce qui est important, c'est d'expliquer tous les tenants et les aboutissants de la maladie. Et ce qui est difficile, notamment parfois pour des jeunes patients à accepter, c'est que c'est une maladie qui va durer en général toute la vie.
Et vous leur dites, ça ne se guérit pas quand même, on ne peut pas.
Alors ça ne se guérit pas, mais ça se stabilise. Et ça, je pense que c'est vraiment un point qui est essentiel. On a vraiment des patients qui arrivent à travailler, à avoir une vie de famille, même avec un trouble bipolaire.
Et est-ce que les patients ont conscience de leur maladie ou est-ce qu'ils sont dans le déni en disant « Écoutez, moi, docteur, tout va bien, je suis un peu déprimé, de temps en temps, je suis un peu excité, je suis d'accord. » Ou ils ont conscience qu'il y a un problème et qu'ils disent « Non, non, effectivement, je vois bien et merci de me donner le diagnostic parce que j'étais dans une forme d'errance un petit peu. »
Il y a vraiment les deux cas de figure. Il y a des patients qui suspectent même eux-mêmes le diagnostic de trouble bipolaire et d'autres pour lesquels c'est beaucoup plus difficile
Il y en a qui nient complètement, qui disent « Non, non, moi, j'ai pas ça, c'est pas possible. »
Oui, il y en a qui ont tendance parfois à nier la maladie. C'est quelque chose qui s'explique d'ailleurs parce que finalement, quand vous avez la jambe cassée, vous pouvez voir, votre cerveau fonctionne bien, vous pouvez voir que vous avez la jambe cassée, surtout le ressentir. Mais quand c'est des maladies du cerveau, c'est forcément beaucoup plus difficile d'avoir le recul suffisant pour se rendre compte qu'on est soi-même malade.
Et vous qui le vivez parfois en consultation, c'est plus difficile pour qui l'annonce ? Pour le patient ou pour ses proches ? Parce que parfois, c'est des parents qui sont là avec des adolescents ou des jeunes adultes. Ouais.
C'est avant tout, je dirais, difficile pour le patient. Mais c'est vrai que les proches qui souvent sont là, accompagnent le patient pendant de très nombreuses années, souffrent aussi beaucoup parfois du non-diagnostic de la maladie. Et ils sont en général assez marqués quand on annonce le diagnostic, mais en même temps, comme on leur parle aussi des solutions et de toutes les possibilités qui existent, ils sont souvent aussi rassurés.
Alors la prise en charge passe par des médicaments, mais pas seulement, et on commence par donner un traitement avec du lithium, c'est ça ?
Alors le lithium, effectivement, c'est un des traitements qu'on peut donner dans le trouble bipolaire. Il y en a d'autres, comme par exemple des traitements anti-épileptiques, ou dans certains cas, on peut aussi donner des antipsychotiques.
Le lithium, il va faire quoi dans le cerveau ?
Alors le lithium, en fait, il va permettre de réguler l'humeur, c'est-à-dire d'éviter d'avoir des phases à la fois de manie et des phases de dépression. Il permet vraiment de stabiliser l'humeur pour éviter ces épisodes.
Donc il y a les médicaments, on n'a pas terminé là-dessus, mais en fait je précise quand même, dans le traitement, la prise en charge du trouble bipolaire, il y a en fait trois piliers. Hein. Les médicaments, les psychothérapies et une bonne hygiène de vie. Donc là, on est sur les médicaments. Les médicaments comme le lithium que vous venez de décrire, on les prend tous les jours, toute la vie, comment ça se passe ?
On les prend tous les jours. Alors, toute la vie, c'est toujours difficile de le dire, mais en tout cas, on les prend vraiment de façon prolongée.
Alors, les patients ont conscience que tout traitement a des effets secondaires, et en particulier en psychiatrie, on se doute bien que quand on vous dit...
On a très peur des effets secondaires en psychiatrie.
Donc, voilà. Et quels sont les effets secondaires attendus avec le lithium et comment est-ce qu'on les surveille ou on peut les prévenir ?
Alors, il peut y avoir avec le lithium des effets secondaires. Bon, ça dépend vraiment des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir très très peu d'effets secondaires, d'autres qui vont avoir par exemple une légère somnolence. Ça arrive aussi parfois d'avoir des problèmes rénaux ou des problèmes thyroïdiens. Ah oui. Mais ce qui est important, c'est que le psychiatre, vraiment, il s'attache à vérifier que tous ces effets secondaires ne sont pas présents. Et s'il y en a un, c'est possible toujours de trouver soit un traitement, soit de changer de molécule. Donc, il y a des effets secondaires, mais les médecins sont vraiment attentifs à ça et peuvent toujours proposer des alternatives
pour
les patients.
Surtout que ce lithium, il peut se doser dans le sang pour vérifier qu'on n'est pas en surdosage ou en sous-dosage. Donc c'est quelque chose qu'on contrôle. Le patient, il doit être aussi un partenaire de son traitement. Il ne peut pas juste avaler ses pilules et puis passer à autre chose.
Exactement, ça se contrôle dans le sang. Il y a une concentration très précise, une fourchette dans laquelle le traitement par lithium doit se trouver. Et vous avez tout à fait raison, le patient doit être vraiment acteur de sa prise en charge, faire des examens biologiques si c'est nécessaire et ne pas hésiter aussi à poser des questions sur les effets secondaires à son médecin, à son psychiatre.
C'est le traitement donc de référence, le lithium, mais parfois ça peut ne pas marcher du tout. Enfin, en tout cas, quand ça marche au bout de combien de temps vous les mettez sous lithium et tout de suite c'est fini, ils sont stabilisés, il n'y a plus de crise ni dépressive ni de trouble maniaque ou... Alors, ça met un peu de temps avant que ça fonctionne?
On a vraiment des patients pour lesquels, au bout de quelques semaines, quand l'épisode est résolu, ils vont être stabilisés toute leur vie sous lithium et finalement presque ne plus jamais se soucier de leur trouble bipolaire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui arrive assez fréquemment.
Et est-ce que souvent, ces patients, ils viennent avec un traitement antidépresseur, vu qu'à la base, on pensait qu'ils étaient déprimés, et du coup, vous leur arrêtez le traitement antidépresseur et le lithium fait le relais entre la dépression et la phase d'exaltation?
Tout à fait, c'est exactement ça. Quand les patients ont des traitements antidépresseurs, qui parfois aussi favorisent la présence de rechute, on introduit ce qu'on appelle un thymorégulateur, comme le lithium, et dans ces cas-là, on arrête progressivement l'antidépresseur.
Alors, si le lithium, pour le coup, ne marche pas, même si c'est le traitement de référence, et vous avez dit, ça marche dans de nombreuses situations, il y a d'autres médicaments. J'ai vu qu'on pouvait prescrire notamment des antiépileptiques à ces patients.
Tout à fait. Les traitements antiépileptiques sont en fait pas réservés à l'épilepsie. Ils fonctionnent aussi dans le trouble bipolaire.
Et ça peut va être agir aussi... de quelle façon, là, pour le coup?
Alors, on ne sait pas exactement comment est-ce que ça agit, mais globalement, ça va avoir le même effet que le lithium, c'est-à-dire que ça va réguler l'humeur et éviter la survenue d'épisodes dépressifs ou maniaques.
Alors, Mélanie l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas que les traitements médicaments. Il y a aussi la psychothérapie. Qu'est-ce que ça peut apporter justement de faire une psychothérapie quand on a un trouble bipolaire?
Alors la psychothérapie, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Ça peut permettre d'abord de mieux comprendre sa maladie. C'est ce qu'on appelle la psychoéducation. Ça, c'est quelque chose qui est
très
important.
On va parler, hein, c'est de la thérapie par la parole, hein, c'est ça, hein?
Exactement.
Avec un psychologue ou un psychiatre, c'est ça?
Ça peut être avec un psychologue, avec un psychiatre. Ça peut être aussi en groupe, notamment pour la psychoéducation. Mais on peut, tout type de psychothérapie peut être bénéfique, comme par exemple les thérapies comportementales et cognitives, notamment aussi pour traiter un trouble anxieux associé.
Et ils vont faire quoi, par exemple, dans ces TCC que vous venez de décrire? C'est quoi comme exercice? Qu'est-ce qu'on leur propose concrètement?
Alors,
c'est toujours un peu flou pour les gens. Psychothérapie, ça veut tout dire et rien dire.
Concrètement, par exemple, pour abaisser son niveau de stress, on peut pratiquer de la méditation en pleine conscience, de la relaxation. On peut aussi, avec son thérapeute, identifier les situations qui sont susceptibles de générer de l'angoisse, et en sachant que ces situations d'angoisse, elles peuvent aussi parfois contribuer au déclenchement d'un épisode.
Et pour avoir une maladie équilibrée, vous l'avez dit, ça passe aussi par une hygiène de vie irréprochable, et en particulier le sommeil. Vous avez dit que c'était celui qui était souvent altéré, donc un bipolaire doit bien dormir et faire attention à ce sommeil.
Effectivement, c'est important de se coucher à des heures régulières. Des situations comme par exemple le jet lag, le décalage horaire, peuvent aussi générer un trouble bipolaire, ce qui est particulièrement problématique puisqu'il y a certains patients qui vont voyager sur des longues distances et tomber malades quand ils vont arriver,
oui,
donc en fonction du pays.
Oh là là, ouais.
Voilà, dans des pays étrangers, notamment dans des pays où il n'y a pas une infrastructure de soins qui est très conséquente, ça peut parfois mener à des situations assez catastrophiques.
Donc vous dites toujours se coucher à la même heure. Enfin, c'est quoi? Comment on les aide sur le sommeil? Parce que ça veut dire que c'est des gens qui ont le droit d'avoir une vie complètement monacale et on se couche
pas
tous les jours
tout,
à 9h.
Enfin,
c'est quoi dans la vraie vie?
Non, vraiment, ce qui est important, c'est d'être vigilant de manière générale à son sommeil, de savoir que
avoir combien d'heures de sommeil minimum.
Ça dépend de chaque personne. Chaque personne. Mais ce qui est important, c'est de garder une régularité, c'est-à-dire de ne pas se coucher un soir à 3h du matin, un soir à 4h du matin, un soir à 6h du matin. Ça ne veut pas dire que...
Ça peut faire décompenser la maladie. Hein. Je veux dire, quelqu'un qui le ferait, même s'il prend ses médicaments, mal dormir en se dormant, comme vous l'avez décrit, une fois à 3h, une fois à 6h, une fois...
Ça peut, dans certains cas, déclencher une rechute. Mais attention, hein, ça ne veut pas du tout dire que les personnes qui souffrent de troubles bipolaires ne peuvent pas une fois sortir ou voir des amis, faire la bringue notamment.
Enfin, en ce moment, personne ne fait trop la bringue.
Mais ça, c'est sûr. Mais comme c'est des maladies qui touchent les adultes jeunes, c'est important de dire aussi que ça ne doit pas les empêcher de vivre.
Hygiène de vie irréprochable. Vous disiez tout à l'heure que le cannabis, par exemple, pouvait être le déclencheur parfois alors d'une maladie pour laquelle il y avait une prédisposition, donc le trouble bipolaire. Mais là, une fois qu'on est traité, qu'on est pris en charge, vraiment, j'imagine, alcool, cannabis, c'est à proscrire complètement ou pas?
Alors,
alcool peut-être pas, mais
l'alcool,
bon,
on peut
raisonnablement pour tout le monde. Hein, mais...
Et évidemment, le cannabis, c'est sûr que vraiment, c'est quelque chose, c'est un produit absolument à éviter. C'est un produit qui, même quand on prend ses traitements, peut déclencher une crise juste par quelques prises. Donc voilà, le cannabis, c'est vraiment à proscrire comme d'autres drogues d'ailleurs aussi.
Est-ce qu'il faut faire attention à l'alimentation en particulier ou c'est comme pour tous les autres, avec on fait voilà, plus ou moins attention, mais sans plus.
Non, il faut faire attention à son alimentation, surtout que les personnes qui souffrent de troubles bipolaires sont plus à risque de présenter un surpoids ou de l'obésité ou un syndrome métabolique. Ouais. Donc il faut vraiment être vigilant à ça, avoir une alimentation équilibrée et aussi, bien sûr, une activité physique régulière.
Voilà, on allait venir justement à l'activité physique. Je sais même que ça a été montré dans des... Il y a eu un rapport de l'INSERM il y a quelques années maintenant, je crois, sur maladies psychiatriques et sport, qui peut être un traitement, notamment chez des malades schizophrènes, mais je ne sais pas si dans le trouble bipolaire c'est pareil. Une activité physique importante et régulière, ça peut même aider à diminuer les doses de médicaments. Ça marche aussi dans cette maladie ?
Ça marche aussi tout à fait dans le trouble bipolaire. C'est vraiment quelque chose qui est très important. Nous, par exemple, dans notre service, on propose des activités avec un éducateur sportif pour les patients. Et c'est vraiment un point qui est absolument essentiel d'avoir une activité physique régulière.
Ça devrait donc dire qu'il faudrait aussi rembourser le sport, peut-être, pour ces patients qui souffrent de bipolarité. Alors, les salles de sport, elles ne vont pas ouvrir avant un petit moment, malheureusement. Mais néanmoins, on pourrait imaginer que on prescrit du lithium et une activité physique qui soit remboursée et prise en charge pour finalement que le patient aille mieux, peut-être consomme moins de médicaments et que ça coûtera peut-être moins cher à la collectivité au final.
C'est une très bonne idée, effectivement. Je pense que ça pourrait être une piste importante de prise en charge.
On avait parlé du sommeil et je crois que la luminothérapie, donc le traitement par la lumière, chez ces patients-là est en train, enfin, on le voit dans quelques études désormais, de donner des bons résultats. Comment ça fonctionne là sur ces patients ?
Alors effectivement, la luminothérapie, c'est quelque chose qui est assez efficace sur certaines formes de dépression, puisque finalement, dans le trouble bipolaire, on essaye de prescrire le moins possible, en tout cas, des antidépresseurs. Mm-hmm. Et donc, reste quand même la question de savoir comment est-ce qu'on peut traiter ce type de dépression. Et notamment, le docteur Pierre-Alexis Geoffroy, qui est déjà venu travailler là-dessus. Et effectivement, la luminothérapie, ça peut être vraiment une alternative très intéressante pour les patients qui ont une dépression.
Et au final, est-ce que c'est des gens qui arrivent à être, vous l'avez dit, insérés dans la société de façon normale, avoir des amis, du soutien familial, ou ça reste plus compliqué lorsqu'ils sont traités ?
Alors, il y a vraiment des patients bipolaires qui sont extrêmement bien stabilisés.
Vous en avez beaucoup, vraiment ?
On en a vu, vraiment. J'ai vu des confrères, des médecins, des ingénieurs, des personnes qui ont une vie de famille qui est totalement équilibrée. Pour laquelle
il y a des médecins
serait...
bipolaires. Bah oui, pourquoi vous seriez épargné, après
c'est
tout
vrai. C'est plus vrai. Avec le travail décalé.
Ouais, mais bon, être médecin, être bipolaire, vous voyez, c'est possible.
Donc, mais vraiment, je vous assure que si vous les rencontriez, ce serait absolument impossible pour vous de dire qu'ils présentent un trouble bipolaire. C'est-à-dire que la maladie passe complètement inaperçu. Ah ouais,
c'est incroyable, c'est un message très positif ça, Jimmy. Une vie normale, donc ça vous avez dit pour la vie professionnelle, la vie sociale, mais la vie familiale et même de parents, une femme par exemple qui souffre de troubles bipolaires, elle peut envisager un jour avoir des enfants, parce qu'il y a des traitements qui ont l'air quand même assez lourds, je ne sais pas, c'est compatible avec la grossesse ?
Alors, on peut tout à fait avoir un trouble bipolaire et être enceinte, ça aussi c'est un message qui est important, notamment pour les jeunes patients à qui on vient de diagnostiquer un trouble bipolaire. La seule chose, c'est que c'est une période un peu plus à risque, qu'il faut faire attention, parfois ajuster ou changer certains traitements, mais ça ne veut pas du tout dire qu'on ne peut pas avoir d'enfant.
Merci beaucoup, docteur Lydy, d'avoir été avec nous cet après-midi, nous avoir accompagnés. Merci pour toutes ces précisions.
Merci.
Dans un instant, notre chronique Les mots du quotidien. Nous ferons un point cet après-midi sur la maladie de basse d'eau. Savez-vous comment se manifeste cette pathologie qui touche la thyroïde ? Comment la dépister et surtout, comment la prendre en charge ? Le docteur Jimmy Mohamed nous dira tout. A tout de suite sur Europe 1. Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi. À présent, on va passer à notre séquence Les mots du quotidien. Aujourd'hui, focus sur la maladie de basse d'eau. Savez-vous ce que c'est que cette pathologie ? Comment elle se manifeste et comment on peut la traiter ? Benjamin Lévesque vous a interrogé sur ce sujet. On écoute tout de suite ce que vous en dites.
Ça me dit quelque chose, je l'ai déjà entendu.
Basse d'eau.
C'est le nom de la personne qui a découvert la maladie.
Je pense que c'est lié à tout ce qui est les selles, tout le temps envie d'aller aux toilettes.
Et je pense que la personne, elle est forte.
Peut-être tout ce qui est lié à l'ovulation, aux règles, etc.
Le terme la maladie de quelque chose est parfois compliqué à interpréter parce qu'on peut se dire c'est grave, alors que des fois c'est pas forcément plus grave que ça, c'est vraiment le terme qui fait que tout de suite on imagine que c'est quelque chose de grave.
Donc c'est un traitement à vie et il faut pouvoir trouver le bon dosage.
À mon sens, c'est quelque chose de grave. Consulter impérativement, parce que aller aux toilettes tout le temps, je pense que c'est quelque chose de très désagréable.
Alors, très désagréable ou pas, on va voir avec Jimmy. Il y aurait des personnes fortes. Il y a eu des trucs intéressants,
des
petites perles aussi. Hein. Alors, Jimmy, on va reprendre. Donc, la maladie de basse d'eau, effectivement, un nom un petit peu saugrenu comme ça, mais c'est quoi cette maladie ?
Alors, c'est une maladie auto-immune de la thyroïde. Pour faire très simple, vous avez des anticorps dans votre organisme qui vont être produits, qui vont s'attaquer à votre thyroïde et qui vont se déposer à la surface. Et en réponse, votre thyroïde va s'activer, elle va produire plus d'hormones thyroïdiennes. et vous allez avoir de l'hyperthyroïdie. C'est donc...
Elle fonctionne trop vite, trop fort.
Elle fonctionne trop vite. C'est la cause principale d'hyperthyroïdie.
D'accord. Et c'est une maladie, je crois, qui est essentiellement féminine. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une tranche d'âge particulière pour cette maladie chez les femmes ?
Et alors, effectivement, ça touche 5 à 10 fois plus les femmes que les hommes. Et ça touche des femmes de votre âge, Mélanie, de 40 à 60
non,
ans.
Non, j'ai pas 40 ans encore. Hein.
Vous êtes pas loin de la quarantaine, mais bientôt...
C'est pas gentil, ça. Bientôt, je vais me rajouter 2 ans, comme ça, gratuitement. Je vous en veux, je dis.
Et il y a un caractère héréditaire. Dans 15 à 30% des cas, on retrouve des antécédents familiaux d'hyperthyroïdie avec cette maladie de base d'eau.
D'accord. Alors, comment ça se manifeste très concrètement pour une femme qui serait subitement, une femme de 40 ans qui serait subitement atteinte? Quels sont les symptômes qui doivent lui mettre la puce à l'oreille?
Alors, pour la maladie de base d'eau, il y a deux choses importantes. La première, c'est lié à la maladie de base d'eau en tant que telle. C'est des femmes qui vont avoir un goitre. Je vous ai dit que la thyroïde, elle va synthétiser plus d'hormones thyroïdiennes, elle va grossir. Et donc, au niveau du cou,
mais oui,
on va voir une thyroïde qui va être de grosse taille, qu'on peut palper, qu'on peut
donc
voir à l'œil nu.
Un gros coup,
effectivement. Et puis, un signe très particulier au niveau des yeux, elles vont avoir des yeux exorbités, qu'on appelle l'exophtalmie, puisqu'il y a une atteinte oculaire de la maladie. Et puis derrière, vous avez de l'hyperthyroïdie. Donc là, c'est tous les symptômes liés au fait que votre thyroïde marche trop vite. C'est la centrale nucléaire un peu du corps humain. Donc votre cœur va battre plus vite.
Des palpitations.
Vous allez être fatigué, irritable, perdre du poids, transpirer, avoir de la diarrhée. Donc tout un tas de symptômes qui, vous l'avez vu, ne sont absolument pas spécifiques, mais qui vont mettre la puce à l'oreille au docteur averti.
Donc on va voir le généraliste qui va renvoyer chez un endocrinologue très certainement. Il y a des examens qui permettent de confirmer qu'on a cette maladie.
Oui, alors le généraliste, il peut gérer ça, honnêtement, pas forcément besoin d'endocrinologue. Mais on va faire d'abord, dans un premier temps, un dosage de la thyroïde, la TSH, et puis des hormones thyroïdiennes. Et puis, on va faire un bilan pour savoir d'où vient cette hyperthyroïdie, car vous pouvez avoir la maladie de base d'eau, mais vous avez d'autres causes. Donc, on va doser des hormones avec des anticorps pour voir est-ce que ça peut être ces maladies de base d'eau. Et puis, on va souvent avoir recours à une échographie ou une scintigraphie de la thyroïde lorsqu'on a un doute.
Rapidement, on n'a plus beaucoup de temps, Jimmy. Le traitement, il y en a un, heureusement, on peut guérir de cette maladie.
Ah ben non, il n'y a pas de traitement de la maladie de base d'eau. La maladie, elle évolue en tant que telle.
J'ai dit, il y a un traitement, il me dit non. Bon, d'accord.
Non, en fait, on va traiter l'hyperthyroïdie
la maladie de base d'eau va entraîner.
Mais la maladie de base d'eau, elle va évoluer sur 12 à 18 mois. Vous allez avoir un traitement avec des antithyroïdiens de synthèse qu'on va vous donner régulièrement, qui vont ralentir la thyroïde. Et lorsque ça ne marche pas, car des femmes vont faire plusieurs épisodes qui ne vont pas résister au traitement, eh bien on va soit faire un traitement avec de l'iode radioactif pour détruire la thyroïde, ou bien vous la retirez chirurgicalement. Et derrière, on vous donnera des hormones thyroïdiennes pour compenser ce manque.
On peut s'en sortir quand même, Jimmy.
Ah oui, non, mais on s'en sort.
Là, vous nous avez fait un peu peur. Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, vous le savez, c'est la chronique sexo de Catherine Blanc. A tout de suite sur Europe 1. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h et maintenant, vous l'attendez, c'est la chronique sexo de Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, vous allez répondre à la question de Chris. Jimmy, vous nous la lisez, s'il vous plaît ?
Avec grand plaisir. J'ai rencontré une fille il y a un mois, alors attention, c'est pas moi qui parle, les sentiments sont
précise, vous avez vu Catherine, pas que c'est lui.
Les sentiments sont là, nous dormons ensemble une fois par semaine. Bon, c'est un petit joueur, mais je n'arrive pas
à
être à l'aise. C'est souvent comme ça au début de relation. Comment faire en sorte que je me sente à l'aise rapidement avec elle? Alors, Catherine, est-ce qu'il ne serait pas un peu fragile, Chris, là? Dormir? Non, mais être à l'aise.
L'analyse du docteur Jimmy, un peu fragile, moi.
C'est un peu raccourci, mais on a besoin de vous le dire, Catherine. Non, mais puisque c'est normal de ne pas être à l'aise, dormir une fois par semaine et d'y aller progressivement. Je suppose qu'ils ont fait d'autres choses, à mon avis, que dormir de temps en temps. Pourtant, elle était très à l'aise à ce moment-là. Enfin, j'étais pas là.
Vous en savez rien, Jimmy. Alors là, je vous ai fait la psychanalyse en 2 minutes.
Voilà, c'est un. Oui, mais j'aime bien. C'est express.
Bon, on va vous écouter, vous plutôt, Catherine, allez-y.
Non, mais je pense que d'abord, on a tous le droit de ne pas être très à l'aise. On a tous le droit de ne pas aller tambour battant dans la relation. Et c'est d'ailleurs charmant. C'est charmant puisque ça invite à rencontrer l'autre, à le sécuriser, ça invite à tisser des liens particuliers tenant compte de sa couleur, tenant compte de son rythme, etc. Le tout est de ne pas s'installer trop longuement là-dedans, parce que quand on s'installe trop longuement là-dedans, eh bien, la relation finit par adopter des lieux de coincement et mettre des étiquettes sur les possibles et les impossibles, et on n'ouvre pas le champ des douceurs et de la sensualité et de la confiance réciproque. Donc de toute façon, c'est un homme qui peine à faire confiance, et c'est un homme qui peine à rentrer dans l'univers de l'autre et laisser l'autre rentrer dans son univers, ce qui pose la question bien sûr de son histoire personnelle. Qu'est-ce qui fait qu'il a cette mise en garde? Est-ce que c'est par des relations malheureuses, ou est-ce que c'est par le modèle qu'il a reçu reçu culturel de ses parents, de ce qui était interdit, de ce qui lui était empêché et qu'il reproduit dans sa relation amoureuse aujourd'hui.
Après, ne pas être complètement à l'aise, là, ça fait un mois, c'est un petit début de relation. C'est normal
au
début,
quand
on va dormir chez l'autre qu'on ne connaît pas très bien. On préfère rentrer chez soi pour faire certaines choses.
Oui,
il y a des choses intimes qu'on n'a pas envie de dévoiler tout de suite.
Péter à côté de la personne avec qui on est, oui.
Moi, j'ai dit des petites choses qu'on préfère faire chez soi, Jimmy y va direct.
Péter,
ça, c'est pas le premier mois.
Faire caca, faire des trucs comme ça, des trucs, effectivement, on peut le comprendre.
Vous êtes un généraliste, vous avez le droit.
Oui, mais comment est-ce qu'on peut être proche à tel point qu'on peut avoir des relations sexuelles, partager la vie, parce que je pense qu'ils ils doivent un peu s'aimer, ou en tout cas être attirés, mais être mal à l'aise par le fait de dormir ensemble.
J'allais dire par le fait de péter, je comprends quand même.
Non, le fait de péter, je pense qu'il ne faut jamais le faire. Honnêtement, voilà. C'est un conseil que je vous donne de longévité. Je ne sais pas vous, si vous pétez,
mais non, jamais. Non. Jamais, de toute façon.
D'accord.
Ou occasionnellement des paillettes.
Oui, voilà, ou des fleurs. Voilà. Alors Catherine, dites-nous.
Non, c'est sûr. D'abord, cette relation est toute neuve, donc effectivement, ne mélangeons pas tout. Et ils y vont progressivement, ça fait à peine un mois, il y a raison d'une fois par semaine. Donc franchement, on peut comprendre que ça va aller tout doucement.
Oui, dans 15 ans, il dormira deux fois.
Non. C'est comme ça, c'est son petit rituel, c'est son besoin d'appréhender les choses. Et ça, je pense toujours à cette histoire de Saint-Exupéry et du renard. Il faut du temps pour pouvoir apprivoiser le renard et c'est ce qui va faire la qualité des liens. Donc voyons les choses un petit peu doucement. Maintenant, comme toujours, le sommeil étant un lieu d'intimité, un lieu de lâcher prise, un lieu où on ne maîtrise pas l'autre, on ne se maîtrise pas soi. Donc c'est souvent d'ailleurs dans les premiers temps, même quand on est à l'aise en faisant l'amour, même quand on est à l'aise en se parlant, on s'est d'ailleurs dit tout ce qu'on ne savait faire, tout ce qu'on fera ou tout ce qu'on ne fera pas, etc. Et pour autant, on dort très mal souvent les premières nuits, parce que justement, on est en surveillance, l'autre est dérangeant, vient rentrer dans notre bulle d'intimité. Parce que, encore une fois...
On s'habitue au bout de combien de temps, en général, à ces choses-là? Effectivement, les premières nuits, c'est vrai qu'on ne dort pas très bien quand on ne connaît pas la personne.
Déjà, faire de la place dans son lit, ce n'est pas nécessairement
pas
très
facile,
simple.
Ouais.
Et puis, je crois que c'est quand on a pu éprouver des tas de situations où l'autre nous a montré qu'il était digne de confiance. Et donc, plus on éprouve ça, plus on va pouvoir s'abandonner à son sommeil.
Au bout de 2-3 mois, ça va, quoi, c'est ça?
Oui,
non, ouais, en général.
Oui,
ouais.
Parce qu'on ne sait pas quand on dort comment on est. Est-ce qu'on est joli, pas joli? Est-ce qu'on bave? Est-ce qu'on ronfle? Est-ce qu'on fait des mouvements dans un sens ou dans l'autre? Vous savez, les gens se surveillent beaucoup, même quand ils font l'amour. Les femmes regardent si leurs seins sont bien droits, si ils pendent, c'est de la ceci, c'est de la cela. La peur d'être observé par l'autre, et l'autre qui dérange, qui respire, qui fait du bruit, qui d'ailleurs peut exaspérer. Il y a des moments où on peut avoir fait l'amour avec quelqu'un qu'on aime profondément à ce moment-là et la nuit avoir envie de le foutre par terre pour pas qu'il soit dans ce lit. Donc c'est
mauvais signe, ça. Hein.
Ça peut arriver encore après 15 ans. Hein. Les ronflements, par exemple, on s'y fait jamais, moi je dis.
Celui-là, à ce moment-là, on le fout par la fenêtre.
Voilà, on met des boules qui
On met des boules qui Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est l'intimité du sommeil est quelque chose. En plus, on est à fleur de peau en termes émotionnels parce que nous avons besoin de sommeil pour une qualité de nos émotions. Donc évidemment qu'on ne laisse pas les gens bousculer notre sommeil impunément, donc il faut du temps et que l'autre ait fait la preuve de sa sécurité, de la confiance qu'il représente.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils précieux comme toujours. On se retrouve demain dans un instant. Je vous laisse en compagnie de Stéphane Bern et Mathieu Noël. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Aujourd'hui c'est des couples de malfaiteurs, oui. Vous savez Bonnie Parker et Clyde Barrow, oh, ils s'aimaient mais ils tuaient des policiers aussi. Raymond Fernandez et Martha Beck. Alors eux
ils sont
donné le mot pour détrousser et tuer les grâce aux petites annonces. Et vous avez choisi qui Mathieu?
Et moi j'ai choisi des gens qui vous ont fait du tort personnellement, Stéphane, puisque vous avez découvert que certains de vos tableaux de maître que vous aviez accrochés chez vous n'étaient pas des tableaux de maître, mais des faux. Wolfgang et Hélène Beltraki, un couple de faussaires de génie qui a déstabilisé le marché de l'art dans les années 90.
Bon, bah écoutez, c'est super. C'est un très beau programme. Moi, j'ai choisi mon couple de malfaiteurs cet après-midi.
Mélanie,
ce sera vous deux,
hein,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
On n'est pas, pas un couple, hein. Voilà, j'ai pas été informé. C'est pas dans le contrat, ça.
Non, j'ai pas été informé.
Bon, très bien. Pour écouter ce couple fabuleux, malfaiteur ou non, restez à l'écoute d'Europe 1.